18h30 à Paris, je vous laisse en compagnie de Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Marion, bienvenue à tous. Allez, au programme de RFI Soir, ce mercredi, ça commence dans 30 minutes, le journal de Gilles Moreau, et puis entretien avec celui qui veut taxer les plus riches. Un impôt minimum à hauteur de 2% de leur fortune permettrait de rapporter 250 milliards de dollars. L'économiste français Gabriel Zucman, de retour du G20 au Brésil, sera l'invité du rendez-vous de la rédaction. Et puis nous irons au Liban, le Liban confronté aux conséquences de l'extension du conflit de Gaza, les affrontements quotidiens à sa frontière, et donc de nouvelles difficultés économiques qui apparaissent. Le secteur du tourisme crucial au Liban est en souffrance. 19h30, dans une heure, Afrique Soir, la première édition, ce sera avec Zéphirin Quadio. Mais pour l'heure, c'est votre débat.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Il avait été supprimé dans plusieurs pays, maintenu dans certains, réintroduit dans d'autres. La question d'un retour du service militaire agite le débat aujourd'hui en Europe. La raison, c'est la menace russe créée par l'invasion de l'Ukraine. Depuis, l'idée ne cesse de germer. L'Allemagne annonce qu'elle fera des propositions dans ce sens le mois prochain. Le Royaume-Uni a récemment évoqué l'hypothèse d'une armée de citoyens. Faut-il le retour des services militaires? Voilà la question qu'on pose ce soir dans le débat du jour. Est-ce que cela peut être une réponse aux besoins qui sont toujours plus importants au sein des armées? Mais quelle efficacité peuvent avoir des réservistes par rapport aux forces régulières? Soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI, le débat du jour.
Et pour répondre à ces questions, nos deux invités à mes côtés en studio, bonsoir Bénédicte Chéron.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Institut catholique de Paris, auteur du livre « Le soldat méconnu, les Français et leurs armées ». État des lieux. Face à vous, général Jérôme Pellistrandi, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, je vais commencer avec vous, général Jérôme Pellistrandi. Quelle est la réalité du service militaire aujourd'hui en Europe? Quel pays propose déjà aujourd'hui un service militaire?
Alors, en fait, il faut bien voir que la plupart des pays européens ont renoncé au service militaire, la conscription qui consistait à incorporer donc une masse de jeunes hommes pour garnir les unités, on va dire, dans la décennie 2000. Pourquoi? Parce que la menace principale qui était le pacte de Varsovie avec l'Union soviétique avait disparu. C'était l'époque des dividendes de la paix. Et donc, d'une part, on n'avait plus le besoin d'avoir une masse de soldats issus de la conscription, et d'autre part, on avait besoin de monter en technicité parce que les équipements modernes sont beaucoup plus complexes, demandent des compétences professionnelles que le service militaire ne pouvait plus assurer. Donc globalement, la plupart des pays avaient renoncé. Il y a une exception majeure, mais pour des raisons tout à fait différentes, c'est la Suisse qui reste basée sur une armée de milices, mais pour d'autres raisons qu'une raison strictement opérationnelle.
Ah, il y a quand même la Grèce, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, ces pays-là, la Suède,
bien sûr,
depuis 2018.
Oui, mais en gros, il y avait eu, dans l'idée qui prévalait jusqu'aux années 90, c'est-à-dire on incorporait un maximum de garçons, que ce soit en France avec le service national, en Espagne, ça s'appelait la mili, ou en gros, il fallait passer par le service militaire, d'ailleurs dans le parcours pour devenir un homme, entre guillemets. Bon, il fallait fournir des bataillons. Les pays du Nord ont conservé, mais à des niveaux assez faibles en termes d'effectifs. Et par contre, effectivement, depuis 2 ans, la question se pose parce qu'aujourd'hui, on a d'un côté la Russie avec ses 140 millions d'habitants et la menace qu'elle fait peser, et puis le fait que nos armées dans les pays européens sont arrivées à un seuil où une inquiétude s'exprime. Que se passerait-il en cas de conflit majeur?
Vous, justement, en tant que général, rédacteur en chef de cette revue Défense Nationale, est-ce que vous estimez légitime cette question d'un retour des services militaires? Parce que vous le disiez, ils existaient il y a quelques décennies quand il y avait une menace qui n'a plus eu lieu d'être les décennies suivantes. Qui a lieu d'être aujourd'hui depuis l'invasion de l'Ukraine et la menace russe?
Alors déjà, j'en parle en connaissance de cause parce que effectivement, j'ai commencé ma carrière militaire comme appelé du contingent en France. Voilà, je suis parti le 2 octobre 80, je devais faire un an. Ouais. et puis je suis resté. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, les discours disant il faut rétablir le service militaire ne répondent pas à la nécessité opérationnelle. Voilà. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens. Vous l'avez évoqué au début, notamment avec les réserves. Mais les réserves, ce n'est pas le service militaire, c'est autre chose.
On peut détailler les réserves d'un mot ?
Alors, en fait, l'idée dans les armées que nous avons en France, mais dans d'autres pays, c'est qu'on va avoir une armée professionnelle avec des cadres, des sous-officiers, des officiers, des engagés volontaires. Et puis, on va avoir des gens qui vont donner du temps, qui sont civils. Et qui exercent tous les métiers, médecins, boulangers, pharmaciens, professeurs, et qui vont être dans la réserve. Je vais prendre un exemple très concret. En France, la gendarmerie utilise beaucoup de réservistes, mais quand vous prenez les pompiers volontaires, vous savez qu'en France, la moitié des pompiers dans nos départements sont des volontaires, c'est-à-dire qu'à côté, ils ont un métier, et donc ils mettent l'uniforme pour servir. Et donc, c'est une forme qui me semble beaucoup plus intéressante à développer que le service militaire tel qu'on l'a connu.
Et pas besoin d'avoir fait un service militaire pour être réserviste.
Alors, non. Maintenant, il faut former le réserviste. Oui. Ça, c'est un autre domaine.
Bénédicte Chiron.
Oui, en fait, ce qui est intéressant d'observer, c'est que même dans les années 70 et 80, quand il y a encore des services militaires ou des formes de services militaires en Europe occidentale, souvent, on les maintient pas seulement pour des raisons opérationnelles. En fait, on invoque autre chose. Alors en France, on va invoquer la cohésion nationale parce qu'il y a toute une mythologie autour de l'idée que le service militaire sert la cohésion nationale, dont on se rend compte que c'est pour une part une mythologie parce qu'en fait, depuis l'entre-deux-guerres, depuis les années 30, en fait, on considère qu'il ne joue plus vraiment ce rôle, qu'il n'y a plus d'effet majeur sur l'état de la société. Donc il y a toujours d'autres raisons qui sont invoquées. Et puis il y a un autre sujet quand même qui est que les services militaires ne sont pas seulement supprimés parce que la menace tombe à l'Est, quand s'écroule le bloc de l'Est à la fin des années 80 et dans les années 90, mais ils sont aussi supprimés parce que la réalité des armements évolue, parce que notamment un certain nombre de puissances européennes, alors deux en l'occurrence, se dotent de l'arme nucléaire. Et en fait, l'argument majeur qui explique que les services militaires sont suspendus pour la France et la Grande-Bretagne, par exemple, c'est le fait qu'il y ait une dissuasion nucléaire et que la menace sur le territoire n'apparaît plus du tout comme une menace concrète et palpable. Et ce qui explique d'ailleurs que le service militaire soit de moins en moins vécu comme un vrai service de défense nationale, parce qu'en fait, on se rend compte dans tous les pays que la conscription, et d'ailleurs à toutes les époques, c'est vraiment quelque chose de très universel, les systèmes de conscription obligatoires et massives fonctionnent quand une société, une population se sent menacée très directement sur son sol. Et là, les citoyens, ou les sujets du roi à l'époque, consentent à cette obligation du service du pays par les armes, parce qu'il y a une menace territoriale. Dès que les menaces sont plus distantes géographiquement, plus évanescentes, moins faciles à percevoir, l'idée d'accepter de passer du temps sous l'uniforme, de manière obligatoire, est bien moins acceptée. Or, pour qu'un service militaire fonctionne, il faut qu'il y ait un relatif consensus dans une société sur sa nécessité absolue. En fait, s'il n'y a pas ce consensus sur sa nécessité absolue, en général, le service militaire dysfonctionne. Alors, il dysfonctionne parce qu'il y a des gens qui évitent de le faire. Mmh. Il dysfonctionne parce que les gens y vont, mais avec des pieds de plomb et sans savoir pourquoi. Donc, leur motivation est assez faible. Donc, il y en a quelques-uns qu'on va arriver à bien former, mais ça ne va pas être très, très fructueux à l'arrivée en termes d'efficacité opérationnelle, etc. Et en fait, on voit bien dans les pays qui ont encore un service militaire ou qui le rétablissent. D'abord que c'est souvent des formes sélectives de service. Quand la Suède rétablit en 2018-2019, elle n'appelle pas chaque classe d'âge dans son entier, en fait. Elle n'appelle pas tous les garçons et toutes les filles majeures. Elle fait remplir des questionnaires, elle en retient 6 000, pour voir parmi les 6 000 qui elle pourrait garder, pour en avoir 4 000 à l'arrivée. Donc ce n'est pas tout à fait le service militaire qu'on a en tête.
On va évoquer les différentes formes de service militaire, mais quand vous évoquez ce consensus au sein de la population sur la nécessité ou pas du service militaire, est-ce que ce consensus, vous avez le sentiment qu'il est là aujourd'hui? Par exemple, je vais citer un responsable de l'OTAN qui a dit que c'était nécessaire pour la population de se dire qu'aujourd'hui, je cite, « tout peut arriver à tout moment ».
Alors, en fait, le tout peut arriver à tout moment, la perception de cette phrase, il faut se rendre compte que pour des populations, elle dépend énormément d'une situation géographique, d'abord. Si on considère que la menace principale est la Russie, la situation géographique On a un peu oublié, hein, mais il y a quelque chose de très territorial, en fait, dans cette question-là. La situation géographique qu'on occupe par rapport à la Russie joue évidemment dans la manière dont on comprend le tout peut arriver à n'importe quel moment. On ne l'entend pas de la même manière quand on est français et quand on est finlandais, cette question-là. Ça n'a pas la même réalité concrète. Et donc, forcément, derrière la question de la mobilisation d'une population prend des formes qui peuvent être très variées. On peut se dire qu'en France, le tout peut arriver à tout moment, ça peut être effectivement des déstabilisations cyber, etc. Et on n'a pas forcément à ce moment-là d'avoir une classe d'âge dans son entier qui sait tenir un fusil. On a besoin d'autre chose.
Mais c'est uniquement géographique, ça ne peut pas être aussi culturel. Parce que par exemple, les Pays-Bas, pareil, il y a un général hollandais, parce que les Pays-Bas veulent tripler les effectifs de leur armée de réserve d'ici 2030. Et ce général hollandais a dit, bah pareil, les Pays-Bas doivent se refaire l'idée que c'est toute la société qui doit se tenir prête si les choses tournent mal.
Mais je pense
vous voulez réagir, général Jérôme Pellistrandi.
Pour compléter ce que disait Bénédicte, on a eu un exemple qui était en fait la crise sanitaire de la Covid. Parce que la problématique d'une levée en masse, hein, Valmy 1792, bon, ça c'est l'histoire. Mais la problématique, et tout peut arriver, c'est aujourd'hui comment nos sociétés, qui sont quand même des sociétés de confort, hein, en Europe occidentale, malgré tout, comment ça se passerait en cas de crise, parce qu'on se rend compte eh bien, qu'il faut faire fonctionner, il faut ravitailler, il faut faire fonctionner l'électricité. Et donc, l'idée de passer, dire tout le monde va devenir soldat parce qu'il faut faire la guerre, c'est complètement illusoire. La problématique aujourd'hui qui se pose, et sur laquelle nous devons tous collectivement réfléchir, au niveau national, mais aussi au niveau européen, c'est comment... Dire, c'est cette fameuse notion de résilience de la nation. C'est-à-dire, comment assurer le fonctionnement de la nation avec nos partenaires européens en cas de crise majeure. Et c'est là où on se rend compte que il est peut-être plus intéressant que le boulanger, il reste boulanger dans son village.
Mais qu'il soit réserviste.
Alors qu'il soit réserviste. Et voilà. Et il faut réfléchir à ces formes-là. Donc, l'idée de recréer une conscription obligatoire avec, bien sûr, la problématique des femmes, hein, aujourd'hui, c'est pas raisonnable, c'est irréaliste.
Ah, Bénédicte Chiron, vous en pensez quoi, un service militaire uniquement pour les hommes ou...
Non, parce
est-ce que la question aujourd'hui des femmes,
de toute façon, toute obligation, comme tout droit, de toute façon, s'ouvre pour les uns et pour les unes et pour les autres, je ne sais pas comment le dire pour me faire comprendre, mais et de toute façon large et appliqué à l'ensemble d'une population. Mais en fait, le vrai sujet, c'est d'arriver à savoir de quoi on parle, pardon de le dire comme ça, parce que quand on parle de crise, par exemple, en disant qu'il faut que les populations soient prêtes à réagir dans des crises, en fait, le mot crise, c'est un mot qui englobe énormément de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui n'appellent pas les mêmes types de comportements, par exemple. On a tendance à dire crise internationale, crise militaire, crise sanitaire, crise, tout est crise de toute façon aujourd'hui. Donc voilà. Et en fait, on voit bien qu'on raisonne sur des espèces de grands ensembles. À l'échelle de l'Europe, faudrait-il rétablir les services militaires ? Encore une fois, ça dépend où on se trouve en Europe, ça dépend quelles sont les menaces, comment elles sont vécues par les populations.
La menace, ça reste la menace de la Russie au port de l'Europe.
Donc si on est dans le cadre d'une menace militaire, quels sont les scénarios militaires qu'on pose sur la table et pour répondre à ces scénarios, quels sont les besoins militaires qu'on peut exprimer pays par pays face à ce type de scénario? Et là, on voit bien qu'on ne peut pas avoir des réponses qui sont exactement les mêmes d'un pays à un autre.
Par ailleurs, il y a une complémentarité qui est possible entre pays.
Il y a des questions de
pays.
Complémentarité, ne serait-ce que parce qu'il y a une puissance de l'Union européenne qui est dotée de l'arme nucléaire, qui est la France, et que d'autres ne le sont pas. Ça joue énormément dans la perception possible de ce qu'est le service militaire. Encore une fois, la vraie bascule en France, en fait, sur le service militaire et en Grande-Bretagne, pareil. Alors, les Britanniques, ils n'ont pas de mythologie autour du service militaire. Ils ont un côté très pragmatique. Un service militaire, ça sert à avoir des soldats. On a besoin de moins de soldats, on supprime le service militaire. Donc, eux, en 1957-60, ils ont moins besoin de soldats. C'est une île. Ils sont dotés de l'arme nucléaire. On supprime complètement le service militaire. Et en fait, nous, on ne le supprime pas, mais la perception que la population française a du service change complètement parce qu'il y a l'idée qu'il y a la dissuasion nucléaire et que la dissuasion nucléaire, elle est acceptée par les Français. Pourquoi ? Parce qu'elle devient un rempart. Et donc le territoire ne sera plus envahi.
C'est ça qui est utile.
Et donc, s'il y a un rempart, on ne va pas. Alors on dit qu'on maintient le service militaire pour crédibiliser l'arme nucléaire. ça a du sens sur le plan des doctrines stratégiques. Pour le grand public, on en a vraiment très peu. Donc en fait, on voit bien qu'il faut poser des scénarios. Et la question, c'est quoi? C'est celle de l'invasion d'un territoire? De quel territoire? Par quels moyens militaires? C'est celle de déstabilisation? C'est celle d'attaque cyber? On voit bien que toute la gamme possible est sur la table, mais on ne peut pas avoir des réponses qui sont des réponses globales et uniformes. En fait, pour que des populations comprennent ce qui se passe, il faut leur expliquer clairement les choses. Et donc, à chaque fois qu'on dit « il y a une menace russe, tout peut arriver, rétablissons le service militaire », on écrase, en fait, la compréhension stratégique de la situation.
Si retour des services militaires, il doit y avoir, Jérôme Pélistrandi, quelle forme peuvent-ils prendre, ces services militaires, pour former à quoi?
Alors, en fait, c'est bien, d'ailleurs, et ça concerne la France, c'est augmenter le nombre de réservistes. Donc, on part toujours sur l'idée du volontariat, c'est-à-dire que le réserviste, c'est un citoyen qui va servir quelques jours, quelques semaines, quelques mois sous l'uniforme. Bon, et donc, ça demande, en fait, une organisation, ça demande des choses très concrètes. Par exemple, effectivement, quelqu'un qui a son métier, eh bien, c'est des accords avec son entreprise pour que eh bien, ça puisse être pris sur son temps de travail ou ainsi de suite. Et donc, il y a tout un processus qui est en cours de mise en place en France pour que permettre à des citoyens, en quelque sorte, de pouvoir participer de manière temporaire à la défense. Je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, à partir de l'été prochain, il va y avoir des détachements de la Marine nationale à La Rochelle et à Bayonne qui vont patrouiller le long du littoral. Bon, et ce seront des marins réservistes, donc, qui ont leur métier à côté et viendront compléter le dispositif, par exemple, avec la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Ils feront de la prévention, ils feront de la surveillance du littoral.
Mais voilà. Par exemple, pour reprendre votre exemple du boulanger, on peut être boulanger dans la journée et puis, une fois tous les, je ne sais pas combien, s'improviser marin. Alors, il y a une formation en amont.
Bien sûr, il y a une formation. Alors après, tout dépend du niveau de compétences que l'on recherche. Mais effectivement, on a en place, d'ores et déjà en France, mais c'est le cas dans d'autres pays, de dispositifs qui permettent une formation relativement légère. Hein. Il n'est pas question, par exemple, de dire au boulanger, pendant 4 mois, tu vas partir faire tes classes, hein, comme on faisait autrefois, et puis advienne que pourra. Il fera une formation d'une quinzaine de jours, puis au fur et à mesure, il améliorera ses compétences. Ce sont, d'ailleurs, je prends là encore l'opération Sentinelle. Eh bien, vous avez des soldats participant à l'opération Sentinelle qui sont des réservistes, qui ont un autre métier à côté. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement faciles à mettre en place. Encore faut-il y mettre les moyens. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui, par exemple, former un pilote de chasse, ça ne sera jamais un réserviste. Pourquoi? Parce que ça prend 3 ans de formation. Et puis ensuite, il faut s'entraîner en permanence. Voilà. Donc aujourd'hui, une armée moderne, elle a besoin de réservistes. Alors, il y a un contre-exemple, bien sûr, qui est très particulier, mais c'est une nation qui est en guerre, c'est Israël. Mais on est dans un autre contexte social, sociétal et stratégique.
Mais est-ce que les besoins en termes de réservistes sont adaptés aux possibilités? Vous dites qu'il ne va pas devenir pilote de chasse, le réserviste. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi d'être formé pour pas faire grand-chose ou par une mission qui n'existerait
Alors,
pas
vous posez justement la bonne question. C'est-à-dire que le réserviste, il faut qu'il ait une mission qui soit utile. C'est-à-dire qu'il faut donner du sens à la mission qu'il va faire. Ouais. Mais c'est le cas, par exemple, dans la gendarmerie. Vous avez beaucoup de réservistes dans la gendarmerie. Et donc, il faut donner du sens à la mission. C'est-à-dire que, et ça, c'est un défi qui est posé à tout système où on va faire venir de manière temporaire sur l'uniforme des citoyens. C'est-à-dire que si on leur dit vous allez garder tel bâtiment qui est vide, ça n'a aucun sens. Mmh. Et le gars, il va dire, ou la fille, il va dire, non mais attendez, moi j'ai pas choisi d'être réserviste pour faire n'importe quoi. Donc, donner du sens à la mission. Et ça, c'est extrêmement important.
Bénédicte Chéron.
Oui, en fait, ce qu'on constate, c'est que dans la plupart des pays européens, il y a un vrai sujet sur le recrutement des armées professionnelles. La France s'est longtemps crue à l'écart de ce problème, et puis enfin, les chefs militaires savaient que ça pouvait arriver, mais on a un peu laissé le sujet de côté, et puis en fait ça commence à arriver. Il y a cette réflexion sur recruter dans les armées professionnelles, parce que ce sont quand même elles d'abord qui sont aptes à combattre si effectivement on estime qu'il y a une menace militaire, le plus directement, le plus frontalement, le plus efficacement. Et puis il y a un deuxième sujet qui est, et à la fois pour ce recrutement et puis pour tous les systèmes qui s'installent autour des armées professionnelles, que ce soit des systèmes de réserve, des conscriptions partielles, comme en Suède, encore une fois, un peu sélectives, en fait, qui est comment est-ce qu'on suscite des volontaires. Mais en fait, on est toujours dans des systèmes de volontariat. Parce qu'encore une fois, quand on est dans des sociétés démocratiques, l'idée de l'imposition du service des armes est devenue une idée qui, hors contexte d'une menace territoriale d'invasion immédiate, ne peut Bien plus sûr. Être acceptée. Donc en fait, on est tout le temps dans des systèmes gradués, de gradation. En fait, il y a ceux qui s'engagent pour des contrats de 5 ans, et puis il y a ceux qui s'engagent pour des contrats plus courts et qui en fait ressemblent à ce qu'étaient les volontaires de service long, comme on disait à partir de 1983-84 en France, qui étaient déjà quasi professionnalisés. Où en fait, c'était du volontariat service long. Et bien, c'est un peu comme quand aujourd'hui, on a un jeune Français, une jeune Française qui s'engage dans une armée pour 1 an ou 2 ans. L'armée de terre le fait.
Est-ce que ce volontariat, il ne s'évanouit pas aujourd'hui, pas seulement en France, en Europe, parce que la culture militaire, elle n'est pas en recul?
Alors, contrairement à ce qu'on pense plutôt, la culture militaire, c'est-à-dire que les jeunes générations, dont on dit un peu vite qu'elles vivent dans un cadre de vie confortable, parce que tout n'est pas confortable pour les jeunes générations, ces jeunes générations, en fait, ont une conscience plus aiguë et plus aiguisée des rapports de force internationaux, de ce qu'est la fonction militaire, c'est-à-dire le fait que les militaires sont là pour faire la guerre et pas pour faire de l'humanitaire ou de la logistique ou de la sécurité publique, etc., que les jeunes Français des années 2000, par exemple. Donc en fait, les jeunes générations ont une perception assez claire des choses. La question, c'est celle du passage à l'acte, si je puis dire, de la conscience des choses à l'engagement, à l'acte de volontariat. Et ça, il y a un vrai sujet qui tient peut-être à une parole politique qui explique les choses et qui donne un sens à l'engagement militaire, peut-être à la manière dont on crée des interfaces, des lieux de contact entre les armées et les jeunes générations. Mais l'idée qu'il y aurait une perte en ligne de compréhension des questions militaires par les jeunes générations est une idée qui est assez fausse.
RFI, le débat du jour.
Faut-il le retour des services militaires? C'est la question qu'on pose ce soir dans le débat du jour. C'est un débat qui agite de nombreux pays européens, évidemment, face aux menaces, et en premier lieu la menace russe depuis l'invasion de l'Ukraine aux portes de l'Europe. Il y a l'Allemagne qui doit faire, dans ce sens, je disais en amorce de cette émission, des propositions le mois prochain. Au Royaume-Uni, le chef de l'armée qui a évoqué l'hypothèse d'une armée de citoyens. La Serbie qui a lancé en début d'année une initiative pour rétablir un service militaire obligatoire d'une durée de 4 mois. On a évoqué obligatoire ou volontariat. Le volontariat doit primer, vous nous dites. Bénédicte Chéron, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Institut catholique de Paris, auteur du livre Le seul soldats méconnus, les Français et leurs armées, et le général Jérôme Pellistrandi, également en studio, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Général Jérôme Pellistrandi, je voudrais qu'on évoque les réservistes. On a bien dit, c'est ce que vous vouliez souligner. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enjeu davantage, et vous l'avez dit, davantage que le service militaire, c'est cette question des réservistes? Je voudrais citer deux chiffres. En Finlande, 238 000 réservistes aujourd'hui, 19 000 hommes dans l'armée. En France, 205 000 militaires, 35 000 réservistes. Elle est où il est où le bon ratio?
En fait, il est un petit peu entre les deux. Alors, le cas de la Finlande est très intéressant parce que la Finlande, qui a été neutre pendant très longtemps, membre de l'Union européenne, eh bien, face à l'agression russe contre l'Ukraine, a demandé son adhésion à l'OTAN. Bon, et le système militaire finlandais était basé effectivement sur une armée professionnelle très réduite, hein, vous avez dit le chiffre, et puis effectivement des réservistes. Bon, c'est lié à cette longue cohabitation avec la frontière, avec l'Union soviétique, puis la Russie. Et donc, c'était un modèle qui était adapté aux besoins de la Finlande. Bon, nous, dans notre cas, d'abord, il y a un élément, et Bénédicte l'a dit, qui est très important, c'est que une armée, qu'elle soit professionnelle ou avec des volontaires, c'est pas fait pour faire n'importe quoi. Or, souvent, par exemple, alors il y a les violences urbaines, il y a la défaillance de services publics, ainsi de suite, et on a des élus qui vont dire il faut faire appel à l'armée. Mais justement, ce qui est absolument important à comprendre, et c'est valable finalement dans la plupart des pays européens, c'est que une armée, ouais, elle est faite pour faire la guerre. Voilà, elle n'est pas faite pour pallier l'absence de conducteurs d'autobus ou de tramway. Voilà. Alors, il se trouve que le système militaire, par son organisation, est efficace. Pourquoi ? Parce que, par principe, il doit pouvoir être autonome en cas de, en cas de crise, entre guillemets.
Et donc, davantage que, est-ce qu'il faut un service militaire, est-ce qu'il faut des réservistes ? C'est plutôt, il faut que l'armée soit missionnée pour des vraies tâches liées à son corps de métier.
Exactement. Alors, bien entendu,
et cela peut suffire.
Bien entendu. Alors, ce qui se passe, c'est que effectivement, dans la plupart des pays européens, par exemple, lorsqu'il y a des grandes catastrophes naturelles, la Bundeswehr allemande, elle a participé à sauver les populations avec ses hélicoptères lourds, ses moyens de franchissement. Ça, c'est légitime. Nous, de manière assez régulière, nos armées peuvent être sollicitées. Il suffit, notamment, par exemple, l'outre-mer, un cyclone. Forcément, les forces armées vont être sollicitées pour apporter des capacités que les systèmes civils ne sont plus en mesure d'apporter. Mais je crois que ça, c'est un élément qui est effectivement extrêmement important, c'est qu'il faut bien comprendre que les armées, c'est fait pour faire la guerre, et surtout faire la distinction entre les forces armées et les forces de sécurité intérieure, parce que souvent, c'était ça la problématique, et notamment, on va dire, dans les années 50-60, et en particulier, par exemple, dans les anciens pays de l'Est, où le service militaire permettait en quelque sorte de contrôler la population. Voilà, chacun dans son domaine.
Bénédicte Chiroy, est-ce que vous croyez, parce que le temps tourne, hein, il nous reste 3 minutes, à la capacité, pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut réintroduire les services militaires, la capacité des armées et des réservistes, ou des personnes qui ont fait un service militaire, de travailler main dans la main? Est-ce qu'il y a une complémentarité de compétences qui est possible, ou
oui,
est-ce que c'est un leurre?
Non, il y a une complémentarité de compétences, et elle est affirmée, elle est revendiquée, même si évidemment, dans les armées très professionnalisées, il peut toujours y avoir l'idée que le réserviste fera jamais aussi bien que quelqu'un qui passe beaucoup, beaucoup de temps sous l'uniforme avec tout l'entraînement qui va avec dans son domaine. Ça, c'est vrai.
Mais globalement,
c'est des sujets. Évidemment, l'armée, la complémentarité, elle est vécue, elle existe, et je pense pas qu'il y ait de vrais problèmes là-dessus. En revanche, là où il peut vraiment y avoir un sujet à évoquer, et encore une fois, il faut se rappeler que la parole politique, dès qu'on parle de choses militaires, a quand même une responsabilité majeure, parce que dans une démocratie, c'est la parole politique qui donne un sens à l'action militaire.
C'est la parole du souverain,
le peuple, ouais. Le peuple élit son représentant, qui doit donner un sens à l'action militaire. Et là, on a quand même un sujet aussi, c'est que il est probable que souvent, dans des sociétés européennes qui ont des petites difficultés budgétaires et des soucis budgétaires, les populations, les sociétés, les armées, les professionnels et les réservistes puissent avoir la sensation qu'on invoque la réserve, ou qu'on invoque des palliatifs, des systèmes de conscription ou d'appel comme palliatifs des manques budgétaires sur les armées professionnelles.
Parce qu'en fait, c'est une sensation ou c'est une réalité ?
Alors, ça peut parfois aussi être une réalité. Et parce qu'il faut avoir conscience qu'en fait, que ce soit un réserviste, que ce soit un professionnel, ou pourquoi pas, pour d'autres sociétés européennes, un conscrit, un appelé, en fait, le gage quand même de l'efficacité d'une armée, quelle que soit sa composition, c'est le temps qu'on lui donne pour s'entraîner, c'est donc sa masse humaine et matérielle suffisante, c'est l'entretien des matériels, bref, c'est tout un ensemble qui nécessite des investissements. Et en fait, on se rend compte que très souvent, dans la parole politique, c'est vrai qu'on parle beaucoup en termes de nombre d'hommes, ou de femmes, évidemment, mais parfois en oubliant qu'il ne suffit pas d'invoquer la réserve ou d'invoquer un système de conscription pour pallier tous les manques budgétaires.
Jérôme Pellistrandi, je voudrais avoir le mot de la fin. Vous qui êtes en faveur de davantage de faire appel aux réservistes, on fait appel à davantage de réservistes et comme ça, on a moins besoin de recruter alors que les besoins sont importants aujourd'hui.
Non, il faut effectivement un modèle équilibré, pragmatique. Par contre, il y a une responsabilité des politiques, et là, le vrai problème, c'est que les politiques ne connaissent pas les questions de défense. Et ça, c'est un véritable problème en Europe.
Eh bien, merci beaucoup, Général Jérôme Pélistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Merci, Bénédicte Chéron, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Institut catholique de Paris, auteur du livre Le soldat méconnu, les Français et leurs armées, état des lieux. On a bien compris finalement que la réalité du service militaire, en tout cas, elle doit s'établir sur la base du volontariat et que la notion de réserviste reste intéressante et qu'il est possible que les réservistes puissent travailler main dans la main avec ces forces armées dont on a toujours plus besoin actuellement en Europe. Merci beaucoup à vous de rester à l'écoute dans 30 secondes, c'est RFI Soir.